Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Elle a même un côté très noblesse parisienne, la parisienne dans toute sa splendeur. Lui ne voit rien de ça, ou s'il le voit, ça ne lui fait rien, parce qu'il ne veut pas de l'amour, cette chose qui avilit l'homme et encore plus les surhommes. L'acte d'amour doit être une chose simple, sans complications. On s'amuse et on se quitte. Mais le... Tu es à moi, je suis à toi, pour toujours. Là, non, il n'en veut pas. Ils sortent du parc. Elle traverse la petite route, saute un talus et se trouve dans les alpages. Il a suivi. L'herbe est très haute. Il y a encore de la rosée. Ça sent le matin le bois mouillé, l'herbe aussi. Au loin, les montagnes sont encore dans l'ombre. Le soleil n'est pas encore assez haut pour les éclairer. Les alpages sont trop en pente et ce n'est pas facile. Pour marcher, on se tord les pieds et ça glisse. L'herbe est glissante. Il continue à descendre. Il la suit. Elle saute. Elle court. Elle sautille. Elle est heureuse d'être en vie et d'avoir près d'elle ce beau garçon. Jusqu'à présent, on peut dire qu'elle n'avait que son frère. Bien sûr qu'elle aime son frère. Elle le trouve beau, intelligent, élégant, noble, etc. Mais ce n'est que son frère. Elle était bien avec lui. Lui semblait bien avec elle. Et tous deux ne semblaient pas avoir besoin d'autres personnes. Mais depuis hier, c'est autre chose. Elle se sent vivre. Elle veut être heureuse. Séduire un autre que son frère. Elle veut une autre personne. Bien sûr, cela la gêne et est triste pour son frère, mais se dit que ça arrive à tout le monde et qu'un frère et une sœur se séparent à un moment ou à un autre. C'est la vie et on ne peut pas faire autrement. Elle court, comme la chèvre de M. Seguin. La chèvre va se faire dévorer par le loup, mais le loup va la dévorer pour lui-même et non pour lui faire plaisir. Pauvre chèvre, elle est si belle, si douce, si blanche, si jeune et innocente. Elle court, la pauvre biquette, ivre d'air, de joie. Elle se croit libre, libre d'être heureuse. Oui, elle veut être heureuse, parce qu'elle est jeune, jeune et pleine de vie. Cette vie, ce sang qui coule, cette chèvre blanche, c'est ce que certains loups aiment. Mais pour la dévorer, pour lui faire du mal, parce que le loup dénigre tout ce qui est tendre. Il aime les choses dures, les choses qui résistent. Lui aussi court, il est ivre, mais ivre de sentir, lui, la vie entre ses mains, à sa merci. Tout à coup, on entend les cloches des églises de la vallée environnante. Nadine s'arrête de courir et dit « C'est féerique !» Gilles va vers elle. Elle s'assoit dans l'herbe. Il s'assoit à côté d'elle. Mais d'une façon respectueuse, à une bonne distance et un peu en arrière. Pour pouvoir la voir et voir ce qu'elle voit. Elle regarde droit devant elle, la vallée, et entend les cloches. Reste assis, sans rien se dire. Lui n'a rien à lui dire. Elle ne sait comment lui dire qu'elle se sent bien avec lui. Puis, au bout d'un moment, ils s'en sont retournés. Arrivé au château, il la laisse et monte à sa chambre. Elle reste au salon, arrivée. Y est Frédéric, maître de l'ordre, dans la comptabilité. Didier n'aime pas tout ce qui est paperasse, et cela fait des mois qu'il entasse sur son bureau des factures. Il a fallu les classer par date et mettre celles qui ont été payées et impayées. Ce travail distrait un peu Frédéric, c'est de la routine qui ne demande pas beaucoup de réflexion. À 13h, les deux jeunes gens vont rejoindre la frère. Va rejoindre sa sœur et Gilles au salon pour prendre le petit déjeuner. Ou plutôt attendre le déjeuner. Ils sont satisfaits de leur travail. Frappe à la porte. Entrez. Ils entrent au salon. Et là, ils vont s'asseoir dans les fauteuils, en face d'eux. Didier demande, « Passez une bonne journée ?» Elle lui répond, « Oui, très bien, et toi ?»«
Moi aussi. »
On a bien débroussaillé les factures. Elle lui demande, « Il y a beaucoup à payer ?» Elle lui répond, « Oh oui !»
Le soir, lorsque Gilles va rejoindre Frédéric dans sa chambre,
il lui demande « Alors ça s'est bien passé ?»«
Oui. »
Pour le remercier de nous héberger, je l'aide, et toi ?
Moi, la fille, une petite noix blanche qui rêve encore au prince charmant.
Frédéric lui dit « Et le prince, c'est toi ?»
Gilles lui dit.
Elle le croit, mais lorsqu'elle va se réveiller, elle verra mes crocs.
Et les jours passent.
Tous les matins, Gilles accompagne Nadine à sa promenade.
Pourquoi le fait-il ?
D'abord, parce que ça l'amuse de voir cette fille l'aimer et qu'il veut voir jusqu'où cela peut aller. De toute façon, que ferait-il dans cette vallée ?
Heureusement que la nature est belle.
Frédéric reste près de Didier. Il se met bien à l'aimer, ce gentil garçon, qui a des tas de problèmes financiers. Son père ne lui a laissé que des dettes. Il l'aime bien aussi parce qu'il est impur.
Durant les promenades, Nadine est toujours lumineuse,
excité près de Gilles.
Gilles, lui, ne dit rien. Tout en marchant,
elle parle de ses lectures, des livres qui l'ont profondément touché, tel le lac de Montrion.
Elle lui dit, quelle œuvre ! Il ne faut pas tout accepter de la vie, la noblesse du suicide, quel livre ! Connaissez ?
Il lui dit d'une façon terne, oui, j'ai lu ça, ça ne m'a rien appris. J'avais l'impression que c'était moi qui avais écrit tout ça.
Elle lui dit, c'est justement ça qui est formidable, c'est que les idées de ce livre sont tellement en nous qu'on a l'impression qu'elles sont de nous.
Une autre fois, elle lui parle de l'au-delà du commun. Elle lui dit, livre étrange, ces deux jeunes gens refusent tout et veulent vivre en dehors de tout. Ils détestent les gens humains d'une façon dure. La jeune fille du château l'a souillée comme l'a fait Marc, c'est horrible. Elle lui dit, c'est normal, puisqu'il déteste les hommes. Elle lui dit, mais elle était pure. Vous, est-ce que vous feriez la même chose ?
Dit, pourquoi pas,
oui, et sans hésiter, je la saoulerai.
Elle est triste et lui dit, mais cela voudra dire que vous la détestez.
Il lui dit, mais je la déteste.
Pourquoi?
Parce qu'elle est ce qu'elle est.
Elle lui dit, mais elle est belle, pure.
Justement pour ça.
Elle lui fait, parce que vous n'aimez ni la beauté, ni la pureté.
Il lui dit, déteste.
Elle lui dit, en vous mettant à la place du personnage,
mais vous-même, ne lui répond pas.
Puis ils vont s'asseoir dans l'herbe, toujours de la même façon.
Elle se dit, sans se tourner la tête vers lui,
il me voit.
Une autre fois, elle lui parle des illusionnistes. Elle lui dit, livre qui démontre que l'on ne peut pas s'isoler du monde,
sur terre. Il lui dit, j'aime pas ce livre. Il y a des tas de gens qui sont bons, de bonté. Les gens sont pris. Et puis, c'est ça qui les perd. Regardez, Charles rate sa vie parce qu'il veut avant tout être bon et servir les autres. Et il demande, il n'aime pas la bonté? Il lui dit, la bonté abaisse l'homme et empêche d'aller de l'avant. Elle lui dit, vous êtes dur? Non, je suis fort. Elle lui fait, mon frère a les mêmes idées que vous, mais il est faible. Il lui dit, s'il est faible, c'est qu'il n'a pas les mêmes idées que moi. Elle est triste qu'il soit si cynique. Elle se dit que c'est le caractère des garçons de paraître cynique, d'avoir l'air fort et dur, le contraire d'une fille. Mais elle est sûre, c'est qu'au fond de lui-même, il n'est pas comme ça. Les jours passent, il fait toujours aussi beau, et deux jeunes gens sont bien décidés de rester chez Jean. Frédéric, le jardinier, homme à tout faire, Martin l'aime bien. Et chaque fois qu'il le voit, il lui pose une de ses questions insolubles. Un jour dans le parc, il lui dit, « Monsieur Frédéric, pourquoi est-ce que l'on dit que le café est chauffé par l'eau ?» Et que l'on dit ça alors que le café a été déjà chauffé, grillé. On ne devrait pas dire qu'il était chauffé par l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Frédéric ? Frédéric lui dit, je ne suis pas un expert. Après la comptabilité, Frédéric, accompagné de Didier, vont sur ces terres. Ils y voient un cheval. Et partent pendant des heures. Frédéric aime beaucoup faire du cheval. Ils vont voir les métayers, les paysans, qui gèrent une ferme pour un patron. Ce sont de pauvres gens mal habillés, ivrognes et qui travaillent très mal. Didier a du mal à se faire obéir par les métayers. On le vole. Frédéric s'en aperçoit et dispute le métayer. Le menace de renvoi. Frédéric se dit, ça ne m'étonne pas que Didier se prenne pour un surhomme avec ces gens qu'il a près de lui. Le soir, les deux jeunes gens se racontent leur journée dans la chambre de Frédéric. Frédéric lui dit, Didier est un brave garçon. Vous en restez combien de temps ici ? Je lui dis, jusqu'à la fin des vacances de Pâques. Didier est peut-être un brave garçon, mais c'est un imbécile de se laisser marcher sur les pieds
par des moins coriens. Durant leur promenade, ils sont pris par l'orage. Un orage violent, comme on en voit en montagne. Très vite, la pluie les mouille. Le vent, le tonnerre, le ciel qui devient sombre. Ils sont en plein alpage, loin de tout, essoufflés et trempés. Nadine lui dit, il y a une vieille bergerie plus loin. Allons, vite, nous y abriter. Elle se met à courir à travers champs, sous la pluie, il la suit. La pluie grandit, le tonnerre gronde. Ils sont essoufflés, la pluie, le vent, les empêchent de respirer. Enfin, il y a la bergerie en plein champ, une cabane faite de pierres entassées et de bois. Elle y est arrivée la première. Pousse la porte et y rentre. Il y fait sombre, se sent mauvais, ce n'est pas très grand. Elle va s'y mettre au fond. Les fenêtres n'ont pas de vitres. La pluie entre, les éclairs éclairent l'intérieur. L'air tonne, les éclairs illuminent. Il apparaît dans l'encadrement de la porte, au milieu des éclairs, tel un dieu, mouillé, lumineux, beau. Elle voit tout ça comme dans un rêve. Elle est éblouie. Elle est dans le noir au fond de la pièce et ne bouge pas. Elle lui dit, venez. Il va vers elle. Elle voit qu'il est essoufflé, mouillé. Elle lui dit, vous êtes tout trempé, j'ai prendre froid, enlevez votre chemise. Il enlève sa chemise, il est nu dessous, lui montre une belle poitrine lisse, ferme et blanche. Donnez-moi votre chemise. Il la lui donne, elle la met en boule et tout doucement, et lui frictionne la poitrine pour le réchauffer. Il sent le bout de ses doigts sur sa peau. Cela, malgré lui, lui fait quelque chose. Puis elle prend un peigne dans ses cheveux et le lui peigne. Elle fait tout ça comme dans un rêve. Elle n'aurait pas cru faire ça. Ensuite elle lui dit, voilà, il est tout étourdi et malgré elle, elle défait le haut de sa robe. des seins beaux, doux, blancs. Elle lui dit, j'ai froid. Il lui dit, en lui tendant sa chemise, c'est chez vous. Et il s'éloigne. Elle est déçue et en même temps heureuse. Se comporte-t-elle-ci, elle se dit, ça veut dire qu'il me respecte. Puis, petit à petit, l'orage s'est arrêté. Il lui dit, faut rentrer, il se fait tard. Et ils s'en sont retournés. Ne se sont pas parlé durant le trajet.
Quoi ? Entrer au château ? Avant d'entrer dans sa chambre, elle lui dit : nous sommes amis, n'est-ce pas ? Ne lui dit rien et il entre dans sa chambre. Une fois dans sa chambre, il est encore troublé par l'image de cette fille qui s'est donnée à lui. Mais il déteste ce trouble. Et se dit qu'il va se venger. Oui, il va se venger d'elle. Pourquoi ? Pour qui se prend-elle ? Et pour qui le prend-elle ? Oui, il se vengera. Il est dangereux, elle ne le sait pas, mais elle va le savoir. Dans la journée, chacun reste à sa place. Le lendemain matin, il pleut beaucoup, ils ne peuvent sortir. Didier et Frédéric sont au bureau à travailler sur leur compte. Après leur petit déjeuner, Gilles et Nadine sont au salon, ils sont assis l'un face de l'autre. Gilles a pris un livre qui est à la table en face de lui. Il le feuillette pour se donner une contenance. Elle ne fait rien. Puis, tout d'un coup, elle se lève et lui dit « Je vais prendre ma douche » et elle sort du salon. Il reste seul. Au bout d'un moment, il entend le bruit de la douche. Ça ne vous ennuie pas trop que je prenne ma douche ? C'est la voix de Nadine. Il lui dit non. Vous ennuyez pas trop ? Non. Vous ennuyez pas trop ? Non. Elle lui dit tout en prenant sa douche, moi la promenade me manque un peu. C'est que faire ce matin ? Et vous ? Il lui dit, moi, ça va. Elle lui dit, mon frère est avec votre frère. Nous sommes, pour ainsi dire, seuls. Il lui fait « Oui ». Elle lui dit « Servez-vous à boire ?» Il se lève et va se servir un jus de pomme. Puis, après s'être servi, il s'assoit dans un fauteuil. Elle lui dit, Marc, il lui dit, quoi? Il sort malgré lui du salon. Quoi? Elle fait, Marc, arrivé près de la porte de la chambre de bain qui est restée ouverte. Il la voit. Il est ébloui. Nadine nue, debout, dans la baignoire, toute mouillée. Il fait un geste de recul. Pardon. Et sourit et lui dit, ne soyez pas stupide. Venez. Ne sommes-nous pas amis? Alors, tout doucement, il entre. Elle lui dit d'une façon inconsciente, prenez le savon et lavez-moi les cheveux. Il ne bouge pas. Elle lui dit, allez, venez. Il s'approche, hésitant, ému et très excité par cette belle jeune fille. Il a beau la détester, il l'aime. Il aime plutôt son beau corps, lisse, mince, comme celui d'une belle adolescente, et son visage tellement pur. Elle lui tend le savon. Il le prend. Elle lui dit, allez-y, savonnez-moi. Il hésite encore. Il a peur de la toucher, d'éveiller ses instincts. Elle lui demande, n'avait jamais lavé les cheveux à quelqu'un? Il fait non de la tête. Elle lui dit, c'est simple. Faites-le. Et il le fait. Il est troublé par la douceur de ses cheveux, son corps tout près d'elle. Il n'ose pas la regarder. Il touche des bouts des doigts. Après lui avoir savonné les cheveux, elle lui dit, c'est bien, maintenant le reste du corps, allez. Il hésite, puis tremblant, il le fait. Ses mains effleurent ce corps si beau, ses seins si fermes. Il voit tout tourner, pris de vertige. Tout d'un coup, il lâche le savon qui tombe dans la baignoire. D'un geste brusque, il en prend dans ses bras, toute mouillée. Elle se dégage et lui dit, déshabillez-vous, je vais vous laver. Il la lâche nerveusement et se déshabille en vitesse. Il a jeté ses vêtements à terre. Une fois nu, il entre dans la baignoire.
et là, sans la regarder, elle se met à lui faire le dos, la poitrine, cette main sur son corps, lui fait un effet terrible. Il se domine plus et bande. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Peut-être que le démon est entré dans l'âme de la petite chèvre et qu'elle va séduire le loup. Elle arrive au bas-ventre. Il bande énormément. Ça n'est pas vilain parce qu'il a un sexe pas trop gros. Arrivé au bas-ventre, cette main sur lui, il n'en peut plus. D'un geste brusque, il la redresse, puis plaque contre le mur et la prend. Il ne sait plus, lui non plus, ce qu'il fait. Mais il doit le faire. La chose a été rapide. Puis, une fois que c'est fini, il sort de la baignoire en vitesse, prend ses vêtements et sort de la salle de bain. Elle est restée étourdie. Elle se dit qu'il doit avoir honte et qu'il ne faut plus que ça se refasse. Cet instant ne doit pas se refaire. Surtout, ne pas lui en parler. Elle finit de se nettoyer. S'habille, et sort de la salle de bain. Elle ne le retrouve pas dans le salon. Il est dans sa chambre, à se dire furieux, elle me le paiera cette garce. De la journée, ils ne se parlent pas et font comme si de rien n'était. Le lendemain matin, il est curieux de savoir ce qu'elle va faire. Elle veut lui montrer que rien n'a changé et qu'elle ne lui en veut pas. Après le petit déjeuner, elle lui dit « Allons, si vous voulez, faire une petite promenade. » Il lui dit, « Oui, je veux bien. » Et ils sortent. Le beau temps est revenu. Il ne reste aucune trace des orages des deux jours. Le ciel est bleu. Il fait doux. Elle marche devant lui calmement. Après un moment de marche, elle lui dit « Ce qui s'est passé hier, c'était rien, rien qu'un rêve, rien d'autre. Il ne faut plus que ça recommence. » Il ne dit rien et se dit qu'elle est une vraie garce. Mais cela ne le gêne pas qu'elle n'ait plus envie d'avoir des rapports. Elle lui dit « Nous resterons amis, n'est-ce pas ?» Il se dit « Elle exagère tout de même. Elle veut que je reste son amie, que je la vois tout le temps. Après ce que j'ai vu, touché, c'est peut-être une allumeuse. Oui, une allumeuse. » Après une pause, elle lui demande « Vous dites rien ?» Il ne veut rien dire. Elle est triste et se dit qu'il doit être fâché. Elle lui dit « Vous êtes fâché ?» Il ne dit rien, juste pour l'humilier. Elle lui demande « Vous m'en voulez ?» Silence. Elle est de plus en plus triste. Elle lui dit « Je vous comprends, mais il faut me comprendre. Moi aussi, ça m'est difficile. Parce que je vous aime bien et que ce genre de choses peut nuire à notre bonne amitié, à nos bons rapports. » Il soupire. Elle pense qu'il doit être fâché, qu'il est trop triste. Elle soupire aussi et lui dit « La vie n'est pas facile. Ne soyez pas fâché. Ça me rend tellement triste. Ne gâchons pas tout ça pour rien. » Il se dit rien. Elle va loin. Tout de même, d'appeler ça à rien. Il lui dit, vous croyez que c'était à rien? Elle lui dit, si, bien sûr, mais notre amitié est plus grande que ça. Il demande, ça ne vous a pas fait du plaisir? Elle lui dit, si, bien sûr. Elle est gênée de dire ces choses. Elle a les larmes aux yeux et se dit que c'est fini, que jamais ça sera comme avant. Elle se lève et lui dit « Allons !» Elle se lève et lui dit « C'est vous qui décidez tout. » Elle lui demande « Comment ?» Elle lui dit « Oui, hier encore c'était vous. » Elle lui dit « Oui, mais j'étais pas dans mon état normal. Il ne faut pas m'en vouloir. » Il lui dit, mais je ne vous en veux pas, vous devriez vous rendre compte ce que c'est, ce qui s'est passé entre nous. Elle lui dit, je sais, allez, rentrons. Il s'en retourne tristement. Mais je ne vous en veux pas. Non, je ne vous en veux pas. Elle est triste. Triste. Il se dit que c'est pour ne pas gâcher son amour qu'elle lui demande de ne plus recommencer. Lui est furieux. Il se dit qu'elle mérite qu'on la viole. Ça lui fera d'une bonne leçon. D'ailleurs, ne l'a-t-elle pas violée? Vous? En se donnant comme ça, C'est aussi un viol, comme un autre. Elle m'a violé. Quelle honte! Elle le paiera. Elle me le paiera, salope. Arrivé au château, chacun va dans sa chambre. Il est furieux, se jette sur son lit, la tête la première, et se dit que les femmes honnêtes sont pires que les autres. Les femmes, mais c'est une fille! Elle, dans sa chambre, se dit que peut-être elle devrait changer et se donner à lui. Le garçon n'a pas la même mentalité que les filles. Elle le frusque et lui fait du mal. Pauvre petit, comme il doit souffrir, le pauvre petit. Durant toute la journée, elle ne pense qu'à ça. Elle a dû lui faire du mal. Et plus elle y pense, plus elle se met à l'aimer. Lui, plus il pense à ce qui s'est passé, et plus il se met à la détester. Il ne cherche pas à la voir. Elle, oui. Frédéric ne sait rien de cette histoire. Gilles ne lui en parle pas. Frédéric est près de Didier et tous les deux sont en dehors de tout ça. La journée passe et Nadine ne sait plus où elle en est. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.